voix nue. Cette semaine, rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. Toni Morrison, première femme afro-américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature en 1993, nous a quittés le 6 août 2019. Célèbre pour ses romans Beloved, Jazz, elle revenait en novembre 2006 sur la mémoire qu'elle avait reçue en héritage dans ses entretiens exceptionnels que nous réécoutons cette semaine.
Troisième émission aux côtés de Toni Morrison. Après le temps des premiers enseignements, nous évoquerons aujourd'hui l'écriture de l'amnésie, l'écriture des traumatismes. C'est de donner voix qu'il s'agit. Toni Morrison, avec le National Book Awards, le Chant de Salomon, vous donne un vaste lectorat. Dans Tar Baby, en 1981, vous nous portez vers une île des Caraïbes où un milliardaire de Philadelphie s'est retiré avec sa femme. Vous donnez comme épigraphe au livre une citation de l'épître aux Corinthiens. Car j'ai appris à votre sujet, mes frères, par les gens de la maison de Chloé, qu'il y avait des querelles parmi vous. Ces querelles, finalement, elles éclatent dans le livre pour grande part à cause d'un mutisme qui recouvre un événement traumatique. Alors on a l'impression que finalement, le silence confortable est toujours un peu coupable et donne lieu à des explosions ultérieures dans votre œuvre.
Guilt is really a substitute emotion. It's an emotion that hides as much as silence. The real emotion is shame. And the inability to get to that place is what causes the necessity for repression. So you see in Tar Baby these explosions among all these people.
La culpabilité, en vérité, c'est une émotion de substitution, une émotion qui est destinée à cacher les choses au même titre que le silence. Et la véritable émotion, c'est la honte. Et je crois que c'est l'incapacité d'en prendre conscience qui rend nécessaire ce refoulement. Et voilà pourquoi on assiste à toutes ces explosions chez les personnages de Tar Baby.
La honte, c'est aussi un choix de ne pas voir le traumatisme. Est-ce que la honte introduit une sorte de myopie volontaire, Toni Morrison?
Shame is knowledge. Shame is information. If you can feel the shame, then you can work through it. If you never feel it, never know it, you could never get rid of it. You could never learn from it.
Mais la honte, c'est un savoir. La honte, c'est une information. Et si on peut éprouver la honte, alors on peut travailler sur ce sentiment, on peut élaborer. Alors que si on ne la ressent jamais, si on ne la reconnaît jamais, alors on ne peut jamais s'en débarrasser. Et on ne peut jamais apprendre à partir de cette honte.
Pour apprendre, la question c'est aussi qu'apprendre et comment remplir les interstices. Est-ce que c'est là que vient le rôle de l'écrivain aussi, Toni Morrison?
To pose the question is the role of the writer. Hint, perhaps, at solutions from one point of view or another, but not to end like a television program where everybody lives happily ever after.
Poser les questions, c'est précisément le rôle de l'écrivain. L'écrivain peut aussi peut-être suggérer certaines solutions d'un point de vue ou d'un autre, mais en tout cas pas comme dans une émission télévisée, un feuilleton où tout est bien qui est fini bien, ça certainement pas.
Le rôle de l'écrivain, c'est aussi de questionner les fausses innocences. Dans Tar Baby, il y a cette phrase qui est sous votre plume: aucun homme ne devrait vivre sans intégrer les péchés de ses semblables, l'air infect de son innocence. La littérature qui est la vôtre, Toni Morrison, est-ce que c'est aussi celle des innocences impossibles?
It is the literature of the impossibility and also the kind of corruption of innocence. I live in a country in which that's all they talk about, is how America is full of innocent America. America, the child, the infant, the new, and it's a diversion, it's inaccurate, it's infantile, and it's a lie. They should grow up.
Oui, c'est la littérature de l'impossibilité de l'innocence et aussi d'une forme de corruption de l'innocence. Je vis dans un pays où on n'a que ce mot à la bouche, l'innocence. Oh, et combien l'Amérique est pleine d'innocence. L'Amérique vue comme finalement un enfant, un nouveau-né. Mais tout ça, ce n'est qu'une diversion. D'abord, c'est faux. Ensuite, c'est infantile. Et puis, c'est un mensonge, tout simplement. Je crois que les Américains devraient grandir un peu.
Pour grandir, il faut aussi apprendre à se souvenir, Toni Morrison, dans le chant de Salomon, en 1977, que nous avons évoqué précédemment, l'un des personnages dit « Essaye de comprendre, mais si tu ne peux pas, tu n'as qu'à oublier, vieux. » Est-ce que l'oubli, c'est aussi infantile, mais c'est aussi né de l'incompréhension et des représentations impossibles ?
It's another escape. Whoever says that in the book, the character is offering really a false argument. Remember, and if you can't forget, you have to select from the past. All of it's not usable. Some of it's usable, some of it is not. So the process is to choose what is healthy, what is usable for the future.
C'est une autre façon de s'échapper. Le personnage qui avance cela dans le livre, je pense qu'il avance surtout un argument fallacieux. Bon, il faut comprendre, et si on n'y arrive pas, si tu n'y arrives pas, eh bien, oublie. Non, il faut être sélectif par rapport au passé, parce que tout dans le passé n'est pas bon pour servir, n'est pas utilisable. Une partie l'est, une autre ne l'est pas. Et donc, le processus va consister à choisir ce qui est sain et ce qui peut s'avérer utile pour l'avenir.
Pour parler du futur, il y a aussi ce rapport sélectif au passé. La mythologie, dont on a déjà parlé ensemble, permet de choisir dans le passé. Avec Tar Baby, l'enfant goudron, c'est aussi un pan de la mythologie africaine dont vous vous emparez, qui permet une réflexion peut-être sur le statut de la femme noire, un statut douloureux.
Same status as all women. It's not any different for black women. But the problem is knowing the difference between remembering the past and being stuck there in a museum where you cannot go forward, or recognizing the past, whatever the mistakes may have been, and learning from them. It's not an either-or situation, but it's not peculiar. It's endemic, I suppose, among an oppressed peoples, but it's not peculiar and limited to them, which is to say, I hope that those questions that are put in Tar Baby and elsewhere are questions that are applicable to women everywhere.
Je pense que ce statut est le même pour toutes les femmes. Il n'y a pas de différence entre les femmes noires et les femmes blanches de ce point de vue-là. Mais le problème, c'est surtout de bien connaître la différence entre, d'une part, se souvenir du passé, mais rester prisonnier de ce passé, comme dans un musée où on ne peut plus aller de l'avant, ou alors reconnaître dans ce passé les erreurs qui ont pu être commises et en tirer des leçons, apprendre à partir de ces erreurs. Ce n'est pas une situation de tout ou rien, si vous préférez. Mais je ne pense pas que ce soit particulier au peuple opprimé. C'est endémique, bien sûr, parmi chez les opprimés, mais ce n'est ni spécifique ni limité aux peuples opprimés. Ce qui veut dire, d'ailleurs, et j'espère que ces questions, les questions posées dans Tar Baby et ailleurs, sont des questions qui sont pertinentes et qui peuvent s'appliquer à l'ensemble des femmes où qu'elles vivent.
Cette figure de l'enfant goudron, du Tar Baby, elle appartient particulièrement à une mythologie africaine.
Yes, its origin is African, and it's been misrepresented, I think, in Walt Disney films. The Tar Baby that I was told about when I was a little girl is a female figure. And the interesting thing is that the rabbit who hits her does so because she doesn't answer him. She says good morning. He says good morning and she didn't say anything. So he's alarmed by her bad manners. And when he hits her and gets stuck, he does not, his fury makes him refuse to understand that if he hits her again, he'll be stuck again. And the other element, which is really important to me, is that the farmer, the white plantation owner, made her in order to seduce the little rogue rabbit who is ravaging his farm. So I tried to replicate all of those people in the book.
Oui, l'origine de ce mythe est africaine, mais il a été très mal représenté, à mon avis, dans les films de Walt Disney. Le Tar Baby, cet enfant goudron dont on me parlait quand j'étais petite, en fait, c'était une figure féminine. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que le lapin qui attaque cette petite fille le fait parce qu'elle ne lui a pas répondu. Il lui a dit bonjour et elle n'a rien dit. Et il est donc fort mécontent des mauvaises manières de la fillette. Et quand il la frappe et qu'il reste coincé, eh bien, sa fureur, la fureur du lapin, l'empêche de comprendre que s'il la frappe de nouveau, il va de nouveau se faire coincer. Et l'autre élément qui est important à mes yeux, c'est que le fermier, le planteur blanc, l'a créé cette petite fille goudron précisément pour séduire ce voyou de lapin qui dévaste ses cultures. Et c'est ce que j'ai essayé de reproduire avec tous les personnages de ce livre.
Le livre est aussi une interrogation sur les filiations réelles ou les filiations à inventer. Je vous cite, « On n'a pas besoin d'avoir une mère naturelle pour être la fille de quelqu'un. Tout ce qu'on a besoin d'avoir, c'est un certain sentiment. » C'est de faire attention aux gens plus âgés que soi. Toni Morrison, est-ce que c'est aussi justement les mensonges, les filiations que vous tentez d'explorer dans votre œuvre?
Yes. A real daughter takes care of the people who took care of her. It doesn't have to be a biological relationship. It can be just love and circumstance. And her failure, the female character's failure to do that, puts her outside the world that her people would know. The man, on the other hand, who's called son, is within that world. So that conflict is really a cultural conflict. They love each other a lot, but so what if they can't talk to one another and can't exchange and mix those cultures together?
Oui, une vraie fille s'occupe des personnes qui se sont occupées d'elle lorsqu'elle était enfant. Et ce n'est pas nécessaire qu'il s'agisse d'une relation biologique. Ça peut être simplement de l'amour et puis en fonction des circonstances. Mais son échec, ou plutôt l'incapacité du personnage féminin à donner cet amour et à faire cela, à s'occuper de ses parents, eh bien cela la place à l'extérieur du monde auquel appartient son peuple et qui est familier à son peuple. Le personnage masculin, en revanche, celui qu'on appelle le fils, lui se trouve parfaitement intégré dans ce monde. Si bien que le conflit dont il s'agit est en fait un conflit culturel. Ils s'aiment beaucoup, tous les deux. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisqu'ils ne peuvent pas parvenir à se parler, ils n'arrivent pas à échanger, et donc ils ne parviennent pas à mêler leurs deux cultures.
Michael, qui est dans Tar Baby, le fils qui ne vient pas, est devenu anthropologue, spécialiste des Indiens. Un orphelin de sa culture qui recherchait d'autres cultures à aimer sans risque, dit de lui son père Valerian. Il continue en disant que tous ces allers-retours des ghettos aux réserves étaient une façon de rechercher la compagnie des gens qui permettaient au Michael de tout poil de se livrer à la tristesse qu'ils n'osaient éprouver pour eux-mêmes. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de stratégies d'évitement dans l'identité, dans la fondation d'une identité? Et est-ce que ce sont ces stratégies d'évitement que vous cherchez à déceler aussi, Toni Morrison?
I thought Michael was a representative of that period of young white men, anti-war, anti-capitalist, fearful of their old-fashioned families looking for another life. But it's the embrace of another culture, not the avoidance so much. It's the merging, his interest, his openness to other cultures, and of course a diminished affection for his own family.
Et Michael est vraiment emblématique de cette période. Le jeune homme blanc qui est contre la guerre, qui est contre le capitalisme, qui dénonce le côté un petit peu désuet, démodé de sa famille, de leurs mœurs. Mais je crois surtout qu'il recherche une autre vie. Voilà pourquoi il veut embrasser d'autres cultures. C'est plus le désir d'embrasser une autre culture que celui de l'évitement. Ce qu'il recherche, c'est l'ouverture à l'autre. Mais de ce fait, ça diminue l'affection qu'il a pour les siens.
La nécessité d'affronter la tristesse, d'affronter les siens, sans échapper possible, c'est aussi celle d'affronter les fantômes. Et là, on passe à Beloved, votre livre de 1987, où vous partez d'un fait réel, l'histoire d'une esclave, Margaret Garner, qui a tenté de tuer son enfant plutôt que de le rendre à une vie d'esclave. Dans votre roman, c'est un nouveau-né qui vient hanter la demeure de la famille, une histoire à la fois vraie et imaginée. Est-ce que ces revenants veulent dire, sont la métaphore de la façon qu'a le passé de nous posséder?
If you are engaged in forgetting things that are so painful, I simply arranged it so there was no way for her to forget. So that the history of her action, which is like the history of all those who died in slavery, is alive, comes into the house, sits down at the table. Now you have to deal. It's not going anywhere. You have to face it in order to understand it and to transcend it.
Et si vous avez décidé d'oublier toutes ces choses si pénibles, c'est une voie. Mais moi, je me suis arrangée dans le roman pour qu'elle ne parvienne pas à oublier, précisément. Et c'est toute l'histoire des actes qu'elle a commis, de même que l'histoire de tous ceux qui sont morts en esclavage avant elle. Et bien, c'est cette histoire qui marche debout, vivante, qui rentre dans la maison, qui s'assoit à table parmi eux. Et à ce moment-là, on ne peut plus l'éviter. Il faut l'affronter, il faut y faire face, afin, on peut l'espérer, de comprendre ce qui s'est passé, surtout de le transcender.
Pour transcender cette mémoire-là, vous allez au-delà, vous vous servez, mais vous allez aussi au-delà de des récits de la vie d'esclave. Vous avez montré dans « Playing in the Dark » que ces récits-là étaient un genre populaire. Et pourtant, on a le sentiment que vous avez besoin d'aller au-delà des récits des témoins de l'époque, comme si ceux-ci n'étaient pas capables d'aller jusqu'au bout de leur histoire. Et dans votre essai, The Sight of Memory, vous écrivez « Mon travail est d'arracher le voile sur des faits trop terribles pour qu'ils puissent être racontés. » Alors comment est-ce qu'on arrache le voile, Toni Morrison ?
You don't lie about the history. The story of slavery in America, the story of the civil rights movement in America has been mangled, cleaned up, polished, and made sanitary. It's as though people looked away. So I thought it was time not to blink, to look at it the way it really was, how revolutionary, how radical it was for a slave woman to claim her child and say, this child is mine. And I thought that was a route into looking at the real consequences of an enslaved life where you do not own not only your own body, but your own children.
Eh bien, il ne faut pas mentir sur l'histoire, l'histoire de l'esclavage en Amérique, l'histoire du mouvement des droits civiques en Amérique. Eh bien, cette histoire a été trafiquée, nettoyée, polie, expurgée finalement, comme si les gens voulaient s'en détourner et ne pas la voir. Et je crois qu'il est temps d'accepter de regarder cette histoire sans scier et de voir comment elle était vraiment et de saisir combien il était révolutionnaire, combien il était radical à l'époque pour une femme esclave de revendiquer sa maternité et d'affirmer « cet enfant est le mien ». Et de regarder aussi les véritables conséquences qui découlaient d'une vie d'esclave, à savoir que, eh bien, un esclave ne possède pas son propre corps et il ne possède pas non plus l'enfant sorti de ce corps.
Vous retrouvez aussi là l'image de la Bikou, de l'enfant revenant de la littérature africaine, qu'on croise chez Soyinka ou chez Amos Tutuola ou chez Ben Nokri. Est-ce que ce mythe de l'enfant vous a aussi inspiré pour écrire Beloved, Toni Morrison?
It was not inspired at all by that figure in African stories, but I'm fully aware, and so was the mother in the story, that a dead child was a reincarnation, could be anybody. So I wanted her to feel the impact of joining her children in death. Joining. And so the ghost played a dual role for me in that way.
Non, en fait, je ne me suis pas directement inspirée de cette figure des légendes africaines. En revanche, j'avais pleinement conscience, de même que la mère dans le roman, j'avais tout à fait conscience du fait qu'un enfant mort était une réincarnation et pourrait être en fait n'importe qui. Et je voulais que la mère éprouve tout ce cheminement et cette idée de rejoindre ses enfants dans la mort. Ce qui fait que ce fantôme, ce revenant, était là en fait pour jouer un double rôle.
Dans quel sens un double rôle
It was metaphorically history. It was her personal memory returning until it gets satisfaction. The ghost is hungry to be reconciled with the mother, and until it is, it will not rest. It's still alive at the end of the book. All those dead people that were unburied, who died at sea, millions and millions and millions, who died 3-2 years after they got to America, worked to death, unburied, unmourned, they're still there, out there. And we have to pay close attention, and they deserve our mourning.
Oui, c'était une métaphore de son histoire et de ses souvenirs personnels qui reviennent sans cesse, sous forme de fantôme et jusqu'à obtenir satisfaction, car ce petit fantôme a faim d'une réconciliation avec sa mère. Et jusqu'à ce qu'il soit réconcilié avec sa mère, il ne trouvera pas le repos. D'ailleurs, il est encore en vie à la fin du livre. Et on pense à tous ces gens qui sont morts et qui n'ont jamais été enterrés, ensevelis convenablement, qui sont morts en mer par millions, des millions qui sont morts 3 ou 4 ans après avoir posé le pied en Amérique, ou qui sont morts de fatigue, sous le fouet, morts de travail, et qui n'ont jamais été enterrés, qui n'ont jamais été pleurés, dont on n'a pas fait le deuil. Ils sont encore là, parmi nous, et je crois que nous devrions leur prêter davantage d'attention, parce qu'ils méritent qu'on porte leur deuil.
Vous parlez de deuil ? La mémoire et les souvenirs ne me donneront pas un accès total à la vie intérieure non écrite de ces gens. Seul l'acte d'imaginer peut m'aider. Est-ce que l'acte d'imaginer peut aussi aider à faire le deuil, Toni Morrison?
Oh, yes. For me, the act of reimagining and imagining is a kind of saying goodbye, paying my respects. To these anonymous people.
Oui, pour moi, l'acte d'imaginer et de réimaginer est une forme d'adieu et de saluts respectueux à tous ces anonymes.
Et est-ce que c'est aussi pour ça que vous avez appelé votre pièce de théâtre sur Emmett Till, Dreaming Emmett, en 1986, Rêver Emmett, la vie de cet homme qui a été tué par racisme, un racisme ordinaire. Donc le rêver plus que le décrire.
Well, it's a resurrection of Emmett Till, who was seriously mourned. But it's a life unfulfilled. It's a young life. So I wanted to have not Emmett Till, but another young black teenager resurrect him and execute his life as he would have lived it. So he's inventing, as in dreaming, Emmett Till.
C'est une résurrection de Emmett Till. Emmett Till qui a été pourtant pleuré, mais sa vie... Il n'a pas eu l'occasion de la remplir, de la vivre pleinement. Il est mort si jeune. Et donc, je ne voulais pas le dépeindre lui, mais plutôt un jeune adolescent noir qui, lui, allait l'aider à parvenir à la résurrection et qui allait exécuter, en quelque sorte, la vie de Emmett Till, comme lui l'aurait peut-être vécu. Et donc, ce jeune adolescent le réinvente, comme en rêve, il réinvente Emmett Till.
D'une certaine manière, c'est aussi un revenant qui prend la place de Emmett. On en revient toujours aux revenants et aux possessions du passé.
Mm-hmm. Well, the ghost life is the undead, so to speak, is a way of putting flesh on memory, or putting flesh on memory, putting flesh on anonymous people. Keeping them intellectually and emotionally alive.
Ces vies de fantômes, la vie de ceux qui sont des non-morts en quelque sorte, je crois que c'est une façon de mettre de la chair sur des souvenirs ou sur tous ces gens anonymes et de les garder vivants, intellectuellement et émotionnellement vivants aussi.
Ainsi s'achève cette troisième rencontre avec Toni Morrison. Demain, la langue des fantômes.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Clémence Boulouk avec Toni Morrison, enregistrée en 2006. À voix nue. Réalisation Dominique Briffaut. Prise de son Marie Le Peintre, Marcel Lebras. Coordination Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.